Exactement, ce sera la Saint-Valentin, timing parfait pour publier un livre consacré au marché de la rencontre, les sites internet et applications de rencontre, mais aussi surtout leurs ancêtres, agences matrimoniales, courriers du cœur. Alors, à quoi ressemblait par exemple une petite annonce matrimoniale en 1790? Quelles étaient les personnes qui y avaient recours? Que cherchait-on chez une épouse ou un époux au XVIIIe siècle? Comment s'assurait-on de la discrétion des tractations? Mais aussi, comment se prémunissait-on contre les annonces mensongères et les arnaques? Rappelons aussi que le célèbre tueur en série Landru utilisait les petites annonces pour recruter ses victimes. L'historienne Claire-Lise Gaillard, pour répondre à ces questions, publie « Pas sérieux, s'abstenir, histoire du marché de la rencontre, 19e-20e siècle » aux éditions CNRS. Elle est notre invitée ce matin. Bonjour.
Bonjour.
Alors Claire-Lise Gaillard, vous êtes docteur en histoire contemporaine, spécialiste de l'histoire des intimités et de la culture imprimée au 19e et 20e siècle. Vous avez déjà dirigé avec Juliette Emeou « Histoire de célibat du Moyen-Âge au 20e siècle » paru l'année dernière. Pas sérieux s'abstenir vient tout juste de sortir. C'est un livre à la fois très savoureux, évidemment, parce que ça nous plonge dans cette forme d'intimité publique que sont les petites annonces, mais c'est aussi le résultat d'un travail de recherche assez colossal, hein, qui nous dit beaucoup de choses sur ce qui était vu comme désirable chez un homme ou une femme en fonction des périodes et sur ce que représentait le mariage. Et on verra qu'il ne s'agit pas que d'amour, hein, loin de là. Il est aussi question d'argent, de classe sociale et de travail. Et puis la première chose qu'on découvre dans votre livre, c'est que certes, les applications et sites de rencontres ont banalisé le marché de la rencontre, mais que ce marché existe depuis fort longtemps. Est-ce qu'on peut vraiment dater, d'ailleurs, l'apparition des petites annonces matrimoniales ?
Dater ces premières annonces, la première annonce, c'est un exercice auquel beaucoup de journalistes se sont confrontés, et ce, au XXe siècle et même au XIXe siècle. En fait, c'est un peu une aporie, mais on peut en retrouver de façon éparse à la fin du XVIIIe siècle. Mais c'est vraiment au XIXe siècle que ça devient quelque chose de connu dans le paysage médiatique, que, disons, les contemporains savent ce qu'est une petite annonce et où est-ce qu'on peut en trouver. Mais disons que le premier moment, c'est vraiment la fin du XVIIIe siècle, parce qu'il y a un genre de presse nouveau qui est la presse d'annonce, où on peut faire passer des demandes pour retrouver des personnes perdues, pour trouver un domestique, etc., et pour trouver une fiancée.
Et ça va commencer à supplanter d'une certaine manière les familles, les amis qui traditionnellement mettent en relation les jeunes personnes à cette époque. Comment l'apparition de ce service commercial et aussi celui des agences matrimoniales est perçue dans la société ?
Alors justement, ça, c'est précisément parce que ça donne l'impression que ça supplante l'intermédiation des familles et des amis. Dans les faits, c'est une pratique qui reste toujours marginale. Donc l'intermédiation, dans la majorité des mariages, c'est toujours d'abord les familles. Mais en revanche, c'est perçu comme quelque chose de négatif, de prédateur par la société, justement parce que faire des mariages, c'est quelque chose qu'on fait normalement pas dans la sphère du marché, c'est quelque chose qu'on fait dans les familles. Et là, c'est comme si on transférait dans le marché des activités qui d'ordinaire relevaient des services qu'on se rend entre connaissances. Et donc, ça nourrit une crainte d'une marchandisation prédatrice de la société.
Est-ce que c'est pour ça qu'il y a aussi ce sentiment un peu de honte? Jusqu'à très récemment, on ne disait pas qu'on s'était rencontré sur Internet ou par une agence matrimoniale.
Oui, ce tabou-là, il a une histoire très longue et je le vois dès le début du 19e siècle. Non seulement c'est parce que ça donne l'impression qu'on paye pour se marier, et aussi parce que il y a beaucoup de littérature, de théâtre, qui entretiennent cette idée que les gens, donc la clientèle des agences matrimoniales, c'est une clientèle de déclassés. C'est comme ça c'est avec ce terme-là qu'on désigne cette clientèle, c'est-à-dire tous ceux et celles, et en particulier celles, qui n'ont pas pu se marier sur le marché matrimonial dit classique.
Est-ce que c'est vrai, ça ?
Il y a une raison pour ça. Alors,
qui sont les créateurs de ces intermédiations lucratives et qui sont les gens qui y font appel ?
Alors, pour ce qui est de la clientèle, c'est quelque chose qui évolue entre le 19e et le 20e siècle. On voit qu'au 19e siècle, il y a quand même beaucoup de bourgeoisie, beaucoup de bonnes bourgeoisies, voire de très bonnes bourgeoisies dans les agences matrimoniales. Mais il y a une raison à ça, c'est que le fonctionnement de ces agences repose sur un réseau clandestin de rabatteurs qui, dans la société parisienne, cherchent à trouver les jeunes filles de bonne famille qui ont de bonnes dots pour les inscrire à leur insu et à l'insu de leur famille dans les registres des agences matrimoniales. Donc pour une majorité des femmes qui sont inscrites, elles ne le savent pas et en fait elles n'auraient pas besoin, elles sont jeunes, elles sont tout à fait désirables dans la hiérarchie du marché matrimonial, mais elles sont face à une clientèle masculine qui elle est un peu plus en difficulté pour se marier, pas tant par l'âge parce qu'en fait on est célibataire très tard, quand on est un an en tout cas on est un célibataire endurci très tard, mais plutôt du point de vue de la classe sociale, ce sont des aussi de la bourgeoisie, mais de la bourgeoisie un peu en deçà, plutôt de la petite bourgeoisie, et surtout, et souvent provinciale, c'est-à-dire c'est des gens qui sont à Paris depuis pas longtemps, parfois une génération au mieux, mais souvent qui sont à Paris depuis que quelques années, et donc qui utilisent les agences pour avoir accès à ces jeunes femmes des classes supérieures auxquelles ils n'auraient pas accès s'ils ne passaient pas par l'agence.
Vous parlez d'un marché de la rencontre, hein, c'est dans le titre du livre, et j'ai l'impression que ce terme, il est aussi un peu polysémique, puisque vous nous montrez que la rencontre, c'est un marché, bien sûr, avec des acteurs économiques qui entendent gagner de l'argent en mettant des gens en relation, mais dans une relation, il y a aussi des enjeux économiques, non ?
Oui, mais c'est justement là qu'est le cœur de la critique des agences matrimoniales et même encore aujourd'hui des sites de rencontres, c'est que on confond la dimension marchande des entreprises avec leurs prix et leurs services et l'échange entre un homme et une femme dans le cadre du mariage. En fait, entre un homme et une femme, il y a des échanges de nature économique, mais il ne s'agit pas d'un marché au sens strict. En fait, on pourrait parler plutôt d'un champ au sens bourdieusien du terme, c'est-à-dire qu'il y a des échanges symbolique entre des valeurs qui sont plus ou moins ancrées économiquement. Mais c'est justement là la critique, c'est que les annonces matrimoniales, dans la presse, elles donnent à voir le fait qu'il y a bien des échanges économiques, pas marchands, mais économiques, entre les hommes et les femmes. On a des dots, on a des héritages, on a des fortunes, dont on donne parfois même les montants dans les annonces.
Mais justement, j'ai deux exemples que je vais nous lire. Premier exemple, on est en janvier 1813, cette annonce est publiée dans Petites Affiches, et c'est une riche et jeune roturière qui cherche un noble ruiné. Elle s'appelle Émilie. Et je vous lis son annonce. Je désire un mari de 60 à 70 ans. Je voudrais qu'il eût une de ces figures vénérables qui inspirent à la fois l'estime et le respect, qu'il ait un beau nom. Je préférerais, s'il est possible, un ancien noble que des malheurs, hélas trop communs, au roi ruiné. Je le veux sans aucune fortune, désirant lui donner au moins 3000 francs de rente viagère. Il aura de plus son logement dans mon hôtel et ma table. Alors ça, c'est une annonce qui a eu beaucoup de succès, hein, vous l'écrivez dans votre livre. Deuxième exemple, on va prendre un homme, là, on est en 1889 ou 90, c'est paru dans Hymen. Je cite, « Propriétaire rentier, 55 ans, veuf, enfant établi, aimant la société, excellente nature, famille haut placée, des plus honorables, fortune 250 000 environ, désir épouser femme riche, aimant à recevoir, passerait sur une infirmité, mais non sur l'honorabilité. » On voit aussi, Claire-Lise Gaillard, la différence un peu entre les annonces des hommes et des femmes. Quelle différence principale vous avez pu observer entre les genres dans ces annonces ?
Alors, les différences principales, elles viennent de la conception qu'on se fait au 19e des rôles des hommes et des femmes dans le mariage, et notamment de leur rôle au moment de se marier. Le Code civil définit le mariage comme une relation entre un homme pourvoyeur et son épouse qui lui doit soumission, justement parce que c'est lui qui pourvoit à ses besoins. Donc, qu'est-ce qu'on attend des hommes dans le mariage ? Qu'ils soient en mesure d'être économiquement stable, mais les mariages sont aussi endogames, c'est-à-dire qu'on se marie dans la même classe sociale. Donc il faut que les femmes apportent le prix de leur oisiveté dans la bourgeoisie, c'est-à-dire le fait qu'elles ne... Vous entendez toutes les guillemets, hein, par
oui,
oisiveté.
Oui, bien sûr, oui.
Le fait qu'elles ne travaillent pas dans la bourgeoisie, bourgeoisie, donc une dot. Donc en fait, ce qu'on attend des femmes, c'est qu'elles apportent du patrimoine. Donc elles peuvent l'apporter très jeune, c'est-à-dire c'est tout ce qui a été accumulé dans la génération passée, des dots, des héritages, de la fortune, des avoirs, ce sont les termes qu'on voit dans les annonces. Et on attend des hommes, alors bien sûr qu'ils aient de la fortune, en tout cas qu'ils soient pour régler l'endogamie, de la fortune qui soit au même niveau que celle des épouses, mais surtout, on attend d'eux qu'ils aient la capacité à faire fructifier le patrimoine qu'ils vont recevoir en mariage de la part de leur épouse. Donc on attend d'eux qu'ils aient une profession, et de préférence une profession d'avenir lucrative qui leur permettra de gérer l'avenir. Donc j'aime assez dire qu'on attend des femmes qu'elles aient du passé et des hommes qu'ils aient de l'avenir. Donc ça explique aussi que les femmes, ce qu'on attend d'elles, c'est cette dimension économique, mais comme elles n'ont pas besoin de vieillir pour avoir ça, et au contraire, elles ont ça dès la génération passée. Donc on attend d'elles qu'elles soient jeunes et riches. Alors que les hommes, un homme jeune n'est pas désirable sur le marché matrimonial parce qu'il n'est pas encore fait socialement. Donc on attend d'un homme qu'il soit socialement désirable. Donc ça peut prendre plusieurs années. Et en général, c'est pas avant 30 ans.
Alors, comme vous le disiez, il y a des montants, hein, parfois, dans les annonces. On l'a vu avec celles qu'on a lues. Il y a une dimension, donc, économique. Et ça attire parfois des escrocs, voire des assassins. Et l'exemple le plus célèbre, c'est évidemment le tueur en série Landru, qui utilise les petites annonces. Quelle est sa technique, exactement ?
Alors, la technique de Landru, malheureusement, elle est aussi partagée par beaucoup d'hommes après la Première Guerre mondiale ou pendant la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire de miser sur des figures du célibat féminin, donc des femmes dont ils savent qu'elles vont avoir du mal à se marier pour différentes raisons. La première raison, c'est l'âge. En fait, comme je le disais tout à l'heure, les femmes, elles sont périmées, avec des guillemets évidemment, sur le marché matrimonial à partir de 25 ans. On estime qu'après 25 ans, les chances de se marier diminuent drastiquement. Donc, ils choisissent en particulier des femmes qui vont être prêtes à faire des concessions. Donc, qui sont en général, qui ont au-delà de 30 ans, même voire plutôt 40-50 ans. Et puis, il ajoute d'autres stigmates. Il choisit aussi en particulier des femmes qui sont séparées ou divorcées. Et en fait, on le voit dans la hiérarchie des préférences des annonces matrimoniales. À la fin du 19e siècle, il n'y a pas de divorcés dans les annonces parce que le stigmate est trop important. Et au début du 20e siècle, il y a des divorcés, mais il y a aussi des formules justement en s'abstenir, divorcer, s'abstenir, pas sérieux, s'abstenir, divorcer, s'abstenir, ça va ensemble. Donc il choisit justement ces femmes-là qui, parce qu'elles sont trop âgées par rapport à la moyenne, parce qu'elles sont en difficulté, parce qu'elles sont séparées, ben, vont être plus aptes à accepter n'importe quelle offre. En tout cas, c'est le pari qu'il fait. Et de fait, ces victimes ont plutôt ce profil-là.
Vous citez aussi, Clarisse Gaillard, une institution en France qui s'appelle Le Chasseur français, un magazine donc, qui revendique 4,5 millions de naissances. Alors, de quoi s'agit-il exactement, Le Chasseur français, et comment ça fonctionne ?
Alors, Le Chasseur français a été fondé par l'entreprise Manufrance de Saint-Étienne, donc qui vend des armes en particulier, mais pas que, et donc un journal qui s'intéresse d'abord à la chasse et plus généralement aux choses du monde rural, et un journal qui a connu un grand succès dans le monde rural, mais pas que, mais surtout... Il est devenu connu aussi pour ses annonces matrimoniales, principalement à partir de 1930, parce que commence un système d'exode rural qui concerne plutôt les jeunes femmes, et c'est d'ailleurs ce que Bourdieu a documenté dans Le bal des célibataires, son ouvrage où il raconte ça. Les jeunes femmes du monde rural commencent au début du XXe siècle à vouloir plutôt aller se marier en ville, et donc elles utilisent aussi les annonces pour ça, et les hommes qu'elles pourraient épousés, se retrouvant en difficulté, eux aussi utilisent des annonces pour ça, pour trouver des femmes qui, elles, veulent soit rester à la campagne, soit y venir. Et une partie du succès du Chasseur français vient de cette rubrique mariage dans ces pages qui a prospéré et qui a été investie, donc pas seulement par la ruralité, mais aussi par beaucoup d'hommes et de femmes en ville.
Le nom des magazines spécialisés dans les rencontres est souvent assez savoureux, hein, et c'est tout un programme. D'ailleurs, il y a un index à la fin du livre où on retrouve toutes les références et donc aussi tous les noms de ces magazines. On a l'intermédiaire discret, on a l'avenir de la famille par le mariage religieux. Est-ce que vous en avez un préféré, Clarisse Gaillard ?
Alors, il y en a beaucoup, mais un que je trouve tout à fait intéressant, c'est le mariage pour tous. Parce qu'on voit bien comme cette formule a changé de sens entre le début du XXe siècle et aujourd'hui. Au début du XXe siècle, le mariage pour tous, c'est un journal évidemment hétérosexuel qui prône le mariage et la famille nucléaire. Mais l'idée, c'est de permettre le mariage à toutes les classes sociales. Et donc, de permettre des unions assorties, même si on n'a pas beaucoup de patrimoine, puisque le mariage est encore vu justement comme un échange de patrimoine. Donc pour se marier, il faut avoir un capital économique suffisant. Donc là, l'idée, c'est de permettre au mariage bourgeois d'aller aussi dans les classes populaires.
Merci beaucoup, Claire-Lise Gaillard. Votre livre est passionnant et il est très savoureux. Ça s'appelle « Pas sérieux s'abstenir, histoire du marché de la rencontre 19e-20e siècle » aux éditions CNRS. Merci à